autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, pour porter un autre regard sur l'évolution du vivant. Tous les vivants sur Terre, toutes les espèces animales, y compris la nôtre, mais aussi chaque individu de chaque espèce, ont constamment des choix à faire pour vivre et se perpétuer. Le plus cruel et le plus basique de ces dilemmes biologiques se résume en une phrase : manger ou être mangé. C'est le dilemme de la gazelle dans la savane qui doit baisser la tête pour se nourrir de pousses d'herbe au risque de ne pas voir les prédateurs, lions ou guépards qui la guettent. Le dilemme de la gazelle. C'est le titre de l'ouvrage à nul autre pareil de notre invité, le professeur Denis Réal de l'Université du Québec à Montréal, spécialiste de l'écologie et du comportement animal, qui nous ouvre sur une autre compréhension de l'évolution, à travers ces dilemmes précisément, ces choix, ces compromis que chaque être vivant doit faire à chaque instant et qui sont autant de bifurcations qui assurent la formidable biodiversité du vivant. Des dilemmes issus de notre biologie, de nos gènes, mais aussi de notre environnement et de notre culture. Et pourquoi ça change tout? Autour de la question pourquoi tant de dilemmes et pourquoi le plus cruel de tous, manger ou être mangé, est un des principes les plus féconds du vivant et de l'évolution. Bienvenue pour le découvrir ensemble et avec humour dans cet extrait du film d'animation Le Monde Incroyable de Gumball.
On n'a jamais à édulcorer la vérité. C'est vrai qu'il faut manger ou bien être mangé.
Mon pauvre serpent, la vie ne tient qu'à un fil. La seule chose qui compte de manger ou d'être mort.
Permettez-moi de terminer votre pensée. Le sens de la vie, c'est de manger ou d'être mort.
Dans cette chanson, vous ne faites que vous répéter, car le sens de la vie, c'est de manger ou d'être. Bon, je suis beau, je suis le plus gros sur la terre, ça me laisse un peu de temps pour manger mon dessert.
Manger ou être mangé, c'est toute la question. Bonjour Denis Réal.
Bonjour Caroline.
Merci d'avoir profité de votre passage à Paris pour venir dans notre studio. Vous êtes Denis Réal, professeur au département des sciences biologiques de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, spécialiste de l'écologie et du comportement animal. Vous dirigez le groupe de recherche sur l'écologie évolutive des interactions biologiques. Vous êtes membre de la science de la biodiversité au Québec. Le dilemme de la gazelle, c'est le titre de votre ouvrage original, inédit, passionnant, dont nous avons d'ailleurs un exemplaire à vous offrir. Chers amis auditrices et auditeurs, il vient de paraître chez Humaine Science et franchement, il vaut le détour, car vous partez, Denis Réal, de ce dilemme de la gazelle pour relire en quelque sorte l'histoire de l'évolution du vivant au niveau collectif comme au niveau individuel, on va y venir. Mais d'abord, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que ce dilemme de la gazelle de Thomson ?
Alors, le dilemme de la gazelle, c'est un dilemme très simple quand on y pense. La gazelle ou n'importe quel autre herbivore doit manger. Et pour manger, il faut qu'elle baisse la tête pour brouter l'herbe. Lorsqu'elle fait ça, elle ne peut pas détecter les prédateurs. Donc pour détecter les prédateurs, il faut qu'elle lève la tête. Et là, on se retrouve dans un système où, dans une situation en fait, où on a un conflit entre deux actions, manger et détecter les prédateurs. Et de ce conflit, eh bien, ça va générer, en fait, puisque ces deux actions sont vitales, ça va poser un problème à cet individu qui est la gazelle. Mais quand on regarde autour de nous, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'autres types de compromis, de dilemmes. Et nous sommes tous, d'une certaine manière, victimes de ces dilemmes, parce qu'ils nous forgent, ils forgent nos choix, ils vont nous limiter dans nos capacités de faire différentes choses. Alors ces dilemmes sont très importants aussi parce que ces actions qui sont vitales pour nous, en fait, vont se transmettre en termes d'aptitude darwinienne, c'est-à-dire la capacité de survivre d'un individu, puis de transmettre ses caractéristiques à ses descendants. Donc les dilemmes sont là pour, en fait, jouer un peu, contraindre le jeu de la sélection naturelle et amener la sélection naturelle dans certaines directions, mais pas dans d'autres.
C'est ça, en fait, c'est un principe au fond qu'on n'a pas oublié, mais en tout cas, c'est un principe qui nous gouverne tous et toutes, enfin tous les vivants sur Terre, de quelque taille que l'on soit.
Oui, y compris les humains.
Y compris les humains, on est bien d'accord, on va y venir, et ça c'est très intéressant. Et c'est ça aussi qui assure au fond notre diversité, cette formidable biodiversité du vivant sur la Terre.
Oui, oui, parce qu'en fait, ces dilemmes qui nous contraignent individuellement, qui vont aussi limiter, si on regarde un peu ce qui se passe au niveau des différents niveau hiérarchique du vivant, que ce soit les individus, les populations ou les espèces, eh bien, ces dilemmes vont vraiment contraindre les individus, contraindre les populations à aller dans quelques directions, dans certaines directions, et aussi contraindre les espèces. Chaque espèce ne peut pas tout faire. Et c'est merveilleux d'une certaine manière, parce que cette limitation qui est imposée aux espèces, aux individus, aux populations, elles empêchent finalement à une espèce particulière d'envahir la planète complètement. Vous savez, les humains ont inventé beaucoup de monstres qui sont tous ignobles, plus ignobles les uns que les autres. On a souvent des descriptions morphologiques de ces monstres, mais il y en a un pour lequel on a peu de descriptions morphologiques, mais pour lequel on a une merveilleuse description de ce qu'on appelle l'histoire de vie, les caractéristiques biologiques de l'espèce. C'est ce qu'on appelle le démon de Darwin. Alors, le démon de Darwin...
Qu'est-ce que c'est que ce démon de Darwin ?
C'est une créature inventée par les biologistes, si vous voulez. Ce démon de Darwin, c'est un être qui se reproduirait dès la naissance, qui aurait une fécondité illimitée, qui n'aurait aucun arrêt dans l'épisode de reproduction, donc il se reproduirait tout le temps, qui pourrait se reproduire de façon illimitée.
Infini
d'une certaine manière, parce qu'il serait immortel. Donc ça, ce serait une espèce qui ne subirait aucun dilemme. Et si cette espèce existait, eh bien, très rapidement, elle se répandrait sur la surface de la planète, elle ferait disparaître ses proies, elle dépasserait les capacités de ses prédateurs, elle empêcherait tout autre compétiteur de se répandre, elle envahirait la planète et elle finirait seule, bien seule, et probablement les individus s'entre-dévoreraient les uns et les autres.
C'est ça, c'est le diable de Darwin ou c'est le cauchemar vraiment de Darwin et au fond du vivant.
Oui, c'est un cauchemar. Disons pour la biodiversité, c'est un cauchemar. Alors, jusqu'à maintenant, je dis bien jusqu'à maintenant, aucune espèce n'a été capable de se transformer en démon darwinien. Et donc, les dilemmes, si vous voulez, c'est un peu un exercice mental qui permet aux biologistes de se dire ces dilemmes-là, l'importance, le rôle fondamental de ces compromis biologiques dans l'évolution de la biodiversité. Ces compromis sont essentiels dans la mesure où, en empêchant une espèce de se répandre sur la planète ou de prendre toute la place, eh bien, ils vont justement permettre l'évolution de la biodiversité qu'on connaît actuellement.
De l'intérêt justement d'étudier ces dilemmes. Alors dans votre ouvrage, Le dilemme de la gazelle, vous démarrez, c'est assez joli, le premier chapitre s'intitule Misère individuelle, parce qu'effectivement c'est dur d'être face à des choix, des dilemmes, de manger ou être mangé, c'est le plus basique et le plus cruel. Et puis le dernier, c'est Miracle collectif, on y viendra. Parce que je rappelle tout de même que vous êtes spécialiste de l'étude des personnalités animales, des individus. Vous étudiez, et on y viendra parce que c'est passionnant, les animaux en tant qu'espèce, mais surtout en tant que personnalité et individu. Au fond, chacun d'entre nous et chacun des vivants, on a tous un peu le choix. Alors ça peut être terrible, mais on a des choix à faire, en tout cas.
Oui, nous avons des choix à faire. Alors, la personnalité animale, on pourra peut-être reparler de ça plus en détail, mais c'est une belle illustration en fait, de la variabilité qu'on observe, puisque la biodiversité, on l'observe bien sûr, et souvent on a tendance à penser à biodiversité en termes de variabilité des espèces, diversité des espèces, mais cette diversité aussi, elle se conjugue à différents niveaux. On la voit aussi au niveau des populations. Les populations de la même espèce peuvent être très diversifiées parce qu'elles n'habitent pas dans les mêmes habitats, elles ne sont pas sujettes aux mêmes pressions de sélection, etc.
Et pas sujettes aux mêmes dilemmes, enfin, où elles n'ont pas fait les mêmes choix.
Oui, et ensuite, à l'intérieur de chaque population, on a aussi une grande variabilité entre les individus. Variabilité qu'on observe au niveau génétique, par exemple, mais aussi sous l'effet d'autres facteurs, comme les facteurs environnementaux multiples.
Et on le sait pour les humains, mais ça fait peu de temps, en tout cas, que c'est arrivé dans le grand public, que pour les animaux aussi, il y a des questions de personnalité et d'individu.
Effectivement, oui. Alors, pour les animaux, la personnalité animale, je dirais, les recherches dans le domaine ont commencé vraiment à débuter au début des années 2000. C'est un sujet qui a quasiment explosé, si vous voulez. C'est un des domaines les plus importants de recherche à l'heure actuelle en biologie du comportement. Étonnamment, en fait, il y a eu une explosion des projets de recherche, des études sur la personnalité animale à partir des années 2000. Et en parallèle à ça, on a aussi une explosion des recherches sur la vie en groupe et les réseaux sociaux. Alors, comme on voit un peu ces deux phénomènes intéressants, parce que notre société, au courant des années 2000, a basculé vers un individualisme extrême. On est de plus en plus individualiste, on est de plus en plus attaché à la notion d'individualité, mais aussi on est des individus qui sont dans des réseaux sociaux, je dirais, à chaque seconde. On est impliqué dans ces réseaux, on participe à ces réseaux. Et la recherche, finalement, scientifique, la recherche scientifique est une belle illustration de ce qui se passe dans nos sociétés.
De ce que l'on vit, nous. Hein, voilà.
Donc l'intérêt pour les réseaux sociaux, l'intérêt pour la vie en groupe, l'intérêt pour l'individualité, ont probablement fait en sorte qu'on a eu l'essor de ces deux grandes questions de recherche à l'heure actuelle depuis une vingtaine d'années.
Voilà pourquoi vous nous intéressez particulièrement, Denis Réal. Mais revenons-en à ce dilemme de la gazelle autour de la question manger ou être mangé. Nouvel éclairage, cette fois-ci sur une autre manière pour la gazelle de résoudre ce dilemme par la communication. C'est le biologiste de l'évolution Frédéric Thomas, médaille d'argent du CNRS pour ses travaux sur le cancer notamment, qui était récemment notre invité autour des paradoxes de la nature, qui nous l'explique et vous réagirez ensuite.
Alors déjà, je voudrais le saluer, puisque c'est un collègue que j'ai eu la chance de rencontrer quand j'ai passé 2 ans à l'Université de Montréal, il y a quelques années. Voilà, et donc c'est vrai que les gazelles et leurs prédateurs, aussi surprenant que ça puisse paraître, communiquent, et notamment au travers d'un comportement qu'on appelle le stotting, qui consiste pour la gazelle à sauter sur place. Donc c'est un comportement qui est coûteux à faire, mais qui est moins coûteux que de se sauver et d'engager une course avec un lion ou un guépard derrière. Des sauts sur place qui sont assez caractéristiques.
Hein. Quand il y a un guépard ou un prédateur pas loin.
En tout cas, l'idée derrière, si je puis dire, c'est d'indiquer au guépard qu'il est en face de proies qui sont en très bonne santé et qui risquent fort de s'engager pour rien dans une course. Voilà. Donc en fait, pour le guépard, ça peut être intéressant de dire, bon, manifestement, ces proies-là, je n'arriverai pas à les attraper. Pour la gazelle, même si le comportement est coûteux à faire, évidemment, parce que s'il était gratuit, toutes les gazelles le feraient, même les malades. Hein. Donc il est quand même coûteux, mais il est moins coûteux qu'une vraie course-poursuite. Voilà. Donc il y a de la communication entre prédateurs et proies. C'est le monde des interactions prédateurs-proies, c'est juste fascinant.
Fascinante communication entre proie et prédateur autour de la question manger ou être mangé, parce que c'est une question au fond qui se pose à la proie comme au prédateur finalement.
Oui, tout à fait, oui. Bien, merci à Frédéric d'avoir posé cette question. Et puis, je dirais, en fait, pour paraphraser le livre de Frédéric Thomas et de Michel Raymond, c'est une sorte de paradoxe de la nature, ce comportement. On en voit énormément des comportements un peu paradoxaux. Effectivement, quand cette gazelle se trouve face à un prédateur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met à sauter sur place. Elle a une espèce de comportement complètement illogique d'un point de vue humain, voulez, et qui semble spectaculaire, mais aussi peu approprié et assez saugrenu dans le contexte. Comme le dit Frédéric, en fait, l'explication biologique qu'on a pour le moment, c'est que par ses sauts, la gazelle, lorsqu'elle a détecté un prédateur, elle lui indique simplement qu'il perd son temps s'il essaie de l'attraper.
C'est ça. C'est ça.
Et ceci passe par l'idée que ces sauts sont coûteux énergétiquement. Et seules certaines gazelles qui ont la capacité d'indiquer au prédateur qu'il perd son temps, qu'il va pas arriver à l'attraper, cette gazelle, sont capables de le faire. Donc en fait, au cours de l'évolution, seules les gazelles qui avaient l'énergie suffisante de pouvoir faire ces sauts, de montrer ce signal aux prédateurs, ont survécu. Les autres ont été mangés. Alors, il y a eu évolution de ce comportement au cours du temps. Mais c'est intéressant, et c'est ce qu'on appelle en fait, en biologie évolutive, un signal honnête. Mais honnête dans le sens où...
Un signal honnête. La gazelle envoie un signal honnête à son prédateur.
Alors, en termes évolutifs, un signal honnête, c'est un signal avec lequel on ne peut pas tricher. Les plumes du paon, par exemple, les plumages multicolores de certains oiseaux qui font des parades nuptiales très coûteuses énergétiquement aussi, sont considérés comme des signaux honnêtes dans la mesure où seuls les individus qui disposent de l'énergie suffisante pour montrer ce signal, mais en parallèle à ça, avoir suffisamment de ressources pour faire d'autres choses, par exemple développer les défenses immunitaires, maintenir les tissus en santé, l'organisme en santé, seuls ces animaux-là sont capables de montrer ces signaux. Donc dans un système de communication, il est important de le faire parce que la triche dans la communication, ça mène à l'échec, si vous voulez.
Bien sûr, donc là c'est un signal honnête quand signal le paon, voilà, il y a un prix à payer, mais le paon qui montre ses plumes ou la gazelle qui saute est capable de le faire. On se rend compte aussi, donc ce sont des choix, ce sont des dilemmes, et tout est une question de compromis, tout le temps de compromis, alors évidemment biologique, génétique, mais là où vous poussez le bouchon plus loin et où on vous suit vraiment, c'est que c'est aussi lié à l'environnement. C'est aussi lié à la culture, aux cultures, qu'elles soient animales ou humaines. Ces choix, ces dilemmes, ces compromis sont influencés par énormément de choses.
Oui, parce que en fait, ce qui se passe au niveau de l'évolution, c'est que la sélection naturelle, bien sûr, agit sur les organismes. C'est un filtre neutre, hein, la sélection naturelle. Il n'y a aucune conscience derrière ce mécanisme.
C'est ça, personne ne décide que l'espèce va se perpétuer ou l'individu.
Voilà, c'est simplement le fait que les individus ont des caractéristiques différentes à intenter, hein, à une génération donnée. D'où l'importance de la diversité, justement, à l'intérieur des espèces. Et que par cette diversité, certains, parce qu'ils ont des caractéristiques spécifiques, particulières, vont arriver à survivre et à se reproduire un peu plus que les autres. Et de ce fait, vont transmettre ces caractéristiques à la génération suivante. C'est tout simplement ça, la sélection naturelle. Mais ce qui se passe, c'est que ce principe, finalement, au fil des générations, va construire une espèce de sens, hein, ce qu'on appelle l'adaptation. Alors, la sélection naturelle apporte des changements dans les populations, elle fait changer les caractéristiques des populations, et en faisant ça, mais elle génère des nouveaux dilemmes.
C'est-à-dire que la sélection, enfin voilà, c'est une question de dilemme qui fait avancer la sélection naturelle et l'évolution, et ensuite en retour, les dilemmes, il y a de nouveaux dilemmes.
Des nouveaux dilemmes qui viennent lui bloquer un peu la route, si vous voulez. Bloquer la route,
par
c'est
exemple,
d'une
par
certaine
exemple.
Manière. Disons que souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir la sélection naturelle, dans de nombreuses conditions, va favoriser des combinaisons de traits. Alors, on peut avoir des combinaisons de traits qui, finalement, où on parlait d'optimalité tout à l'heure. Cette idée d'optimalité, c'était une idée très intéressante et qui est toujours très intéressante pour les biologistes, qui est de se dire, dans certaines conditions environnementales, on doit avoir une valeur pour une action qui est la valeur qui offre, qui maximise l'aptitude darwinienne. Donc, c'est la valeur qui devrait être sélectionnée. Et on devrait s'attendre à ce qu'il n'y ait qu'un seul, finalement, puisque c'est optimal. Il devrait y avoir qu'une seule réponse possible
la meilleure,
des populations qui est la meilleure.
La réponse la plus optimale.
Or, ce qu'on découvre depuis quand même pas mal d'années, mais c'est que autour de cette valeur, il y a énormément de variations dans les populations. Beaucoup d'individus ne font pas exactement ce qu'ils devraient faire, parce que si la sélection naturelle s'était produite comme on le pense, ils devraient montrer cette valeur dans leur action. Or, ils ne la montrent pas. Et pendant très longtemps, justement, en écologie comportementale, l'idée, c'était de se dire, on ne s'inquiète pas de ça, c'est du bruit, ça nous importe peu. Mais finalement, avec les recherches, par exemple, sur la personnalité et d'autres recherches depuis une vingtaine d'années, on a commencé, un peu avant, on a commencé à se poser la question de savoir, est-ce qu'il y aurait une valeur adaptative à cette diversité? Est-ce que les individus auraient eux-mêmes, même autour de l'optimum, auraient des capacités en fait, de montrer des variations qui sont adaptatives. Et ça passe par des combinaisons de traits. Alors, ça peut être, par exemple, des traits qui sont morphologiquement, si vous voulez, c'est rare d'avoir des personnes qui ont des très longues jambes et des très petits bras. Alors, on a ce genre de phénomène qui se produit. Et les influences, les gènes qui vont influencer, par exemple, la longueur des bras et des jambes, sont combinés entre eux du fait de la sélection naturelle. La sélection naturelle a favorisé ces combinaisons de traits lorsqu'elles améliorent, finalement, l'aptitude darwinienne.
Et vous citez aussi l'exemple chat noir, chat blanc.
C'est un dilemme aussi qu'on peut trouver au niveau génétique. C'est que chez les chats, et non seulement chez les chats, mais chez beaucoup d'autres espèces, la couleur du pelage, blanc, et la couleur des yeux, bleu, sont souvent associées à la surdité. Donc un chat qui a les yeux bleus et qui est blanc et a beaucoup plus de probabilité d'être sourd que d'autres chats. Ça se trouve d'ailleurs chez des chiens, ça se trouve chez d'autres animaux. Ces caractéristiques-là, les recherches ont montré que c'était dû à des gènes, à un gène notamment, qui en fait va à la fois avoir un effet sur la couleur du pelage et la couleur des yeux, qui enlève la pigmentation d'une certaine manière de ce pelage et de ses yeux, et qui parallèlement à ça va aussi modifier légèrement la structure de l'oreille interne, de l'oreille, et qui va faire en sorte que l'animal est sourd. Alors vous voyez qu'ici on a un dilemme intéressant dans la mesure où on voit que les gènes peuvent être impliqués dans plusieurs traits à la fois et que la sélection naturelle, elle joue un peu avec ça. Elle va maintenir des combinaisons, elle va maintenir une variabilité des gènes et des caractéristiques mesurables dans les populations à cause de ces dilemmes.
Autour de la question pourquoi tant de dilemmes partout dans tout le vivant et à toutes les échelles, on continue de s'interroger à l'écoute de Loose and the Yakuza. Dilemme sur RFI.
Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine. Yeah, yeah. Ce n'est pas un drame si je ne fais plus la fête. Ou si sereine, nous fais-tu juste la guerre? La vie est une chienne qu'il faut tenir en laisse. Yeah, yeah. Hey. Vivre me hante, tout ce qui m'entoure m'a rendu méchante. Si je rate, je recommence. Quand je suis triste, je chante. Ne jamais tout donner de moi. Dans ce monde, c'est le diable qui est roi. Elles me disent que j'ai la poisse. La gabarre de velours, ça part.
Seul, seul, seul.
Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Si jamais je freine et que je ne fais plus de scène, laissez-moi à l'arrière pour qu'à la source je me baigne. Ma blessure saigne et le sang monte à la tête. Je reste la même et ce quoi qu'il advienne. Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine. Ma peau n'est pas noire, elle est couleur ébène. Douce et sereine, où fais-tu juste la guerre? Tu n'es pas parfaite, ton erreur reste humaine.
Seul, 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 je veux être seul. Seul.
Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na.
Luce M de Yakuza sur RFI Dilemme, premier morceau, premier succès de la rappeuse belgo-congo-rwandaise qui devrait elle aussi être intéressée par votre ouvrage de Nyréal, Le Dilemme de la Gazelle, dont nous avons d'ailleurs un exemplaire à vous offrir, chers amis auditrices et auditeurs, autour de la question des dilemmes, donc des choix, des compromis que doivent faire à chaque instant tous les êtres vivants, les gazelles comme les lions, mais aussi les êtres humains qui n'échappent pas à cette règle de l'évolution comme tous les autres animaux. Alors la preuve tout de suite avec la danse des abeilles, si j'ose dire, autour de ces éclairages, autour de ces insectes pollinisateurs, ces abeilles, comment celles-ci font-elles ou pas le meilleur choix? Explication du spécialiste des abeilles, Mathieu Leroux.
Dans le cas des pollinisateurs, par exemple, beaucoup de chercheurs se sont posé la question de ce dilemme entre explorer pour trouver une meilleure nourriture ailleurs et exploiter. C'est-à-dire se nourrir maintenant au risque de ne pas trouver de meilleure nourriture ailleurs. Et donc il y a toute une théorie qui a été développée, la théorie de l'approvisionnement optimal. C'est des modèles mathématiques qui prédisent exactement ce que doit faire un être omniscient, donc qui a la connaissance parfaite du monde et des probabilités du futur. Et donc il y a eu beaucoup d'études qui ont essayé de tester cette théorie, notamment chez les abeilles, et on montre que ça ne marche pas.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que aucun animal n'est omniscient, n'a la connaissance parfaite du monde et de ce qui va se passer.
Et donc, il doit faire des choix. Au fond, l'abeille doit faire des choix.
Elle doit faire des choix plus ou moins risqués, exactement.
Et les choix que font les abeilles d'aller explorer plus loin pour trouver d'autres nourritures pour plus tard ou de se servir de ce qu'il y a sur place, ce sont des choix collectifs, des choix individuels? Comment ça se passe?
Alors, c'est souvent des choix individuels et qui vont être probablement influencés par leur génétique. Donc il y a des patrimoines génétiques qui font que les individus vont être plus exploratoires, vont prendre plus de risques. Et puis je pense qu'il y a aussi une part d'apprentissage. C'est-à-dire que si on a été exploratoire et qu'on a été récompensé, eh bien, on va être encore plus exploratoire la fois d'après.
Qu'en pensez-vous, Denis Réal, de cet éclairage de Mathieu Leroux?
Entièrement d'accord avec Mathieu. Ce qui s'est passé depuis les années 60-70, il y a eu ce développement considérable des études en comportement animal dans un contexte écologique qu'on appelle au Québec, en tout cas, l'écologie comportementale. Mm-hmm. Peut-être qu'on l'appelle éco-éthologie ici, je sais pas.
Non, trop. Écologie comportementale, ça nous va bien.
Alors, c'est une discipline qui a eu un rôle fondamental, et notamment avec cette approche d'optimalité dont Mathieu parle. L'idée que dans chaque condition, il y a des actions ou des décisions optimales prises par les individus, par les animaux, lorsqu'ils sont à la recherche de nourriture ou même dans d'autres contextes. Par exemple, quelle proie choisir lorsqu'on a le choix? Combien de temps doit-on passer sur une parcelle et l'exploiter alors qu'on ne sait pas exactement combien de temps la nourriture va rester, parce qu'il faut chercher le prochain item alimentaire plutôt que de partir chercher de la nourriture ailleurs, comme le précisait Mathieu. Alors, Cette vision d'optimalité, elle a été très intéressante. Elle est toujours intéressante à l'heure actuelle, surtout pour fixer, si vous voulez, un contexte théorique dans lequel on peut baser nos études.
Mmh. Voilà le comportement optimal.
Voilà. Mmh. Mais parallèlement à ça, on s'aperçoit effectivement qu'il y a énormément de variations entre les individus et que les individus ne font pas exactement ce qu'on prédit avec la théorie.
En fait, ce ne sont pas des machines, les individus, non, pas du tout.
Non, sûrement pas. Mais il y a l'impression de savoir mais pourquoi ils font pas exactement ce qu'ils devraient faire, d'après les modèles qui ont été proposés par les biologistes. Alors, une des explications, et Mathieu en parle un peu, c'est qu'il y aurait un dilemme ici. Il y aurait un compromis dans la capacité des individus ou dans leur capacité à explorer leur milieu. L'exploration, hein, pour un animal ou pour un humain d'ailleurs, c'est de recueillir une information minute après minute, seconde après seconde, si vous voulez, de son milieu, qui vont pouvoir l'aider à prendre des décisions futures. Donc, par exemple, je suis là depuis un temps trop long, je dois quitter la parcelle parce qu'il y a probablement plus de nourriture ailleurs. Comment l'animal fait ça ? Et ce qu'on a noté, c'est qu'il y a ce qu'on appelle ce compromis entre la précision avec laquelle l'animal, la précision de l'information que recueille l'animal, et la vitesse avec laquelle il recueille cette information.
C'est-à-dire ?
Alors, on appelle ce compromis un compromis entre vitesse et qualité de l'information. On sait, par exemple, les psychologues nous l'ont dit, en tant qu'individu, on est plastique, on peut changer dans notre capacité, justement, d'acquérir l'information de façon plus ou moins rapide. Et lorsqu'on acquiert l'information trop rapidement, cette information n'est pas d'aussi bonne qualité que si l'on met le temps de l'acquérir.
D'accord. Donc, est-ce qu'on perd du temps à acquérir de l'information ou est-ce qu'il faut le plus d'informations possible le plus rapidement possible ?
Exact, c'est ça. Alors, non seulement chaque individu vit ce dilemme au cours de sa vie, mais aussi, ce qu'on a noté, c'est que les individus diffèrent dans cette capacité. Certains sont dits rapides et superficiels, d'autres sont dits minutieux et lents. Et c'est cette variabilité qu'on observe au niveau associé à ce dilemme entre vitesse et précision de l'information recueillie. Elle existe probablement justement parce qu'il n'y a pas une solution optimale d'acquisition de l'information. Chaque action possible, être rapide et superficielle ou être lent et minutieux, peut avoir des intérêts, des bénéfices en termes d'aptitude darwinienne ou d'acquisition des ressources, mais aussi des coûts. Et il y a une espèce d'équilibre qui est généré dans la population qui fait qu'on a ces différentes combinaisons de comportements qu'on retrouve dans les populations. Moi, je travaille sur des tamiens rayés, ces petits écureuils à rayures, vous savez, qu'on voit en Amérique du Nord.
Oui.
On a pu mesurer à de nombreuses occasions des différences dans le comportement d'exploration de ces tamiens qui révèlent ce dilemme entre vitesse et précision de l'information qu'ils recueillent.
On pourrait dire aussi que certains sont plus exploratoires et d'autres plus timides. Enfin, alors, ce sont aussi des différences de cet ordre-là, à la fois individuelles, biologiques, génétiques, mais probablement même apprises peut-être. Oui.
Ça peut dépendre du sexe, de l'âge, chez les tamiens en tout cas. Il y a des différences génétiques, différences associées aux conditions de vie à la naissance.
Ah oui.
Alors, dire que c'est une variation dans l'exploration, je dirais que tous ces animaux sont explorateurs. Ils ne montrent pas les mêmes modes d'exploration.
Ah, c'est ça.
Certains sont vraiment... Alors, si vous les placez, par exemple, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un test, en fait, qui est très utilisé par les gens qui travaillent en psychologie ou en pharmacologie sur les rongeurs. On a une grande boîte blanche dans laquelle on place un animal, le tamia, ici, ce petit écureuil, et on regarde son comportement d'exploration de cette boîte. La première fois qu'on le met dans cette boîte, totalement nouveau pour un écureuil qui a vécu dans une forêt au sud du Canada, il n'a jamais vu de boîte. Donc on le met dans cette boîte, on regarde ses comportements. Les écureuils, disons, rapides et superficiels, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont dans la boîte, ils commencent à sauter de partout, à sentir les recoins, à bouger dans la trappe, et puis dans cette boîte, et puis au bout d'un moment, mais ils ont récupéré l'information dont ils avaient besoin, ils s'arrêtent. Ils attendent. Alors là, on les ressort, bien sûr, et puis on les reteste un peu plus tard l'année suivante. À l'inverse, on a des tamiens qui sont dits minutieux et qui ont un comportement donc, de recherche approfondie. Eux, la première chose qu'ils vont faire lorsqu'ils sont dans cette boîte, c'est de geler complètement. Ils sont immobiles, ils ne bougent plus pendant plusieurs secondes, voire des fois une minute.
Ils s'arrêtent, ils observent.
Et puis petit à petit, et bien là, ils vont commencer à recueillir une information et ils vont commencer à explorer, à se déplacer dans cette boîte. Donc face à la nouveauté, on a des réactions complètement différentes dans leur comportement d'exploration. Mais les deux sont explorateurs d'une certaine manière. Leur mode d'exploration est différent.
Et différent. C'est bien le mode d'exploration qui est différent, ça j'ai bien compris. Et ce qui veut dire aussi que finalement, il n'y a pas une meilleure solution et que la nature, entre guillemets, la vie, elle veut réussir, donc il y a toutes ces possibilités-là qui sont offertes. En fait, il n'y a pas une solution qui serait la bonne.
Il n'y a pas une solution miracle, si vous voulez, effectivement. Et alors, c'est probablement que ça dépend des conditions environnementales. Dans certaines conditions, peut-être qu'un mode de vie plus superficiel, en tout cas un mode d'exploration plus superficiel et peu précis, est tout à fait intéressant. En tout cas, peut-être peut avoir un avantage par rapport au mode d'exploration minutieux. Mais dans d'autres conditions, on va se retrouver avec un mode d'exploration minutieux qui est plutôt favorisé par la sélection naturelle. Et ça, très probablement, parce que le milieu dans lequel vivent nos tamias, même à des échelles, disons, de très, très fines de l'habitat, sont différentes. Ils n'ont pas les mêmes arbres, ils n'ont pas les mêmes plantes, ils n'ont pas le même couvert végétal, il n'y a pas exactement la même prédation, il n'y a pas la même densité de tamias. Toutes ces conditions-là sont très hétérogènes et elles influencent, en fait, elles permettent à certains tamias d'avoir certains avantages dans certains micro-habitats de la population et d'autres, probablement, de trouver leur place ailleurs.
Il faut de tout et il y a de tout dans la nature, c'est vraiment ça.
Il y a de tout, ce n'est pas la panacée non plus, mais en fait, on arrive à trouver des équilibres comme ça et qui maintiennent une coexistence, si vous voulez, de différents types dans la population. La diversité est essentielle à l'évolution biologique.
La diversité est essentielle, on ne le dira jamais assez, la biodiversité aussi. Alors, de vos écureuils canadiens jusqu'à nous, tous, humains et humaines, autour de la question pourquoi faisons-nous des choix à chaque instant sans même nous en rendre compte. Alors c'est en fait le rôle de notre cerveau que de faire des choix, que d'être confronté finalement constamment à des dilemmes. À ce sujet, je vous propose l'éclairage du côté de notre cerveau humain de la neuropsychologue Sylvie Chocron qui était récemment notre invitée. Elle est chercheuse et clinicienne. Elle a publié Une journée dans le cerveau d'Anna. Écoutons-la, ça doit vous intéresser.
En fait, à chaque instant, notre cerveau prend des décisions. Ces décisions, elles sont prises sur des perceptions conscientes et des perceptions non conscientes. Et donc, par exemple, parfois, on va dire, j'avais une décision à prendre ou il y avait un dilemme et j'ai eu une intuition. Mais qu'est-ce que c'est qu'une intuition ? Une intuition, c'est finalement tout un tas de données qui nous sont arrivées sans qu'on en ait conscience et qu'on va utiliser à notre insu. Ce qui veut dire que la perception de ces données et l'utilisation de ces données est totalement inconsciente et qu'on invoque l'intuition comme quelque chose de supérieur, mais qui sera quelque chose qui finalement va nous permettre de réagir de manière très rapide à une situation donnée. Alors parfois, ça peut être des situations de survie. Donc par exemple, vous êtes sur la route, il y a un obstacle, vous allez éviter l'obstacle, vous ne savez pas pourquoi vous l'avez évité, mais vous l'avez évité parce qu'il y a une voix dans votre cerveau qui fait transiter ces informations visuelles qui ont perçu l'obstacle, qui vous ont demandé de faire un écart, et vous l'avez fait, vous avez écouté cette voix inconsciente, bien que vous ne sachiez pas du tout pourquoi vous l'avez fait. Et donc toute notre vie, tout notre quotidien est un dilemme permanent entre toutes les informations qui nous arrivent, conscientes et non conscientes. Et à chaque instant, notre cerveau va donner plus de poids à certaines informations que d'autres. Il va prendre une décision. La plupart du temps, cette décision sera la bonne. Mais malheureusement, pour des raisons qui nous échappent, à certains moments, la décision ne sera pas la bonne et elle va nous mettre en danger. Et qui dit dilemme, dit choix. Et à chaque instant, notre cerveau fait des choix.
Et au fond, ce que vous dites, Sylvie Chocron, pour notre cerveau humain, alors à d'autres degrés, on peut probablement l'appliquer à tous les cerveaux de mammifères.
Exactement. À chaque instant, le cerveau du chat, le cerveau de la gazelle, le cerveau du poisson va recevoir tout un tas d'informations. À chaque instant, en fait, le cerveau, c'est un organe dont l'objet, c'est de réagir de la manière la plus adaptée possible à une situation. Et à chaque situation, il y a un dilemme parce qu'il y a plein de solutions possibles. Et donc, à chaque instant, le cerveau fait un choix. Qui dit choix ne dit pas forcément conscient. C'est pour ça que ça s'applique aussi aux animaux. Donc en fait, le cerveau de l'animal fait un choix à son insu, de la même manière que notre cerveau fait un choix qu'on pense conscient, mais qui les trois quarts du temps est un choix à notre insu. Et le but du cerveau, c'est d'avoir fait le meilleur choix en fonction de ce qu'il prédit, de ce qui va se passer, de ce qu'il a analysé, de ce qui vient de se passer et de ce qui pourrait être le plus adapté pour vous. Parfois, ce ne sera pas le meilleur choix. mais il aura fait ce choix-là.
Que vous inspire cet éclairage choisi de la neuroscientifique Sylvie Chocron de Nyréal.
C'est très intéressant. Je ne suis pas spécialiste des neurosciences, mais si je me souviens bien, je crois que d'ailleurs le cerveau humain prend ses décisions de façon inconsciente. Et par la suite, quelques secondes après, notre cerveau nous permet de justifier ce choix comme une décision rationnelle.
C'est ça, exactement.
C'est vraiment que des fois, on a l'impression qu'en tant qu'être humain, on a une rationalité très, très, très marquée, très claire, mais en fait, on a beaucoup de choix qui se font de façon complètement inconsciente. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est d'ailleurs ce qui se passe au niveau comme le disait Sylvie, les animaux se comportent, les actions des animaux sont probablement, alors jusqu'à quel niveau de conscience, c'est très difficile à dire, mais en tout cas, on n'a pas besoin d'impliquer une rationalité lorsqu'on traite de questions sur le comportement animal, même si on observe des réactions qui semblent complètement logiques, voire même tout à fait époustouflantes de certains animaux dans certains contextes, on n'a aucun besoin d'impliquer cette rationalité. Elle peut se faire par des mécanismes qui ont évolué depuis des milliers et des milliers, voire des millions de générations.
Et qui ont été sélectionnés pour ça.
Sélectionnés par la sélection naturelle.
Pour leur efficacité. Autour de la question jusqu'où pourront nous entraîner nos choix et nos dilemmes, celui de la gazelle, tiens donc, pour reprendre le titre de votre ouvrage, Denis Réal. On continue de s'interroger justement sur nos choix, nos bons choix et nos mauvais choix, puisqu'on a bien compris, parfois il y a des choix qui ne sont pas les bons. C'est à l'écoute de votre choix musical, Denis Réal, qui ne doit rien au hasard, puisqu'il s'agit du bluesman Robert Johnson, guitariste, qui a inspiré des générations de rockers, qui est décédé à l'âge de 27 ans, comme Janis Joplin, comme Jim Morrison, comme
Jimi Hendrix,
comme Kurt Cobain. Alors, est-ce que c'est leur choix de vie qui pourrait expliquer ce qu'on appelle ce terrible club des 27? Allez, on s'interroge à l'écoute de Love in Vain, Robert Johnson sur RFI.
And I followed her to the station with a suitcase in my hand. And I followed her to the station with a suitcase in my hand. Well, it's hard to tell when all your love's in vain, all my love's in vain. When the train rolled up to the station, I looked her in the eye. When the train rolled up to the station, and I looked her in the eye. Well, I was lonesome, I felt so lonesome, and I could not help but cry, all my love's in vain. When the train, it left the station, with two lights on behind. When the train, it left the station, with two lights on behind. Well, the blue light was my blue, and the red light was my mine, all my love's in vain.
Love in Vain, Robert Johnson sur RFI. Le tout premier membre du funeste club des 27, ces musiciens de rock notamment, ont décédé à l'âge de 27 ans. Denis Réal, on l'a dit, on a parlé de Janis Joplin jusqu'à Kurt Cobain, etc. Et j'en passe. Est-ce que, avec votre regard, est-ce que ces musiciens ont fait les mauvais choix? Est-ce qu'au fond, c'était un choix, Born to be Wild, ou de vivre vite et de mourir jeune? Quelle est votre lecture? Parce que vous le citez dans votre ouvrage, le dilemme de la gazelle. Vous citez ce club des 27, une énigme hein, tout de même.
Oui, parce que c'est un phénomène très curieux. Alors, au passage, Love in Vain, une superbe version par les Rolling Stones dans un album de concert qui est
exactement
vraiment inoubliable.
Mais là, c'est l'original.
Là, c'est l'original. Là. Oui. Voilà. Alors, oui, ce club des 27. Ça ne veut pas dire forcément que tous les musiciens meurent à 27 ans, bien heureusement. Mais et c'est un phénomène statistique, probablement. Alors, c'est aussi une petite communauté, hein, un groupe de stars qui est mort à cet âge-là. Certains musiciens sont même morts un peu plus tôt, voire un peu plus tard. Mm-hmm. Il se trouve que les études nous montrent que les musiciens à succès meurent statistiquement plus jeunes que la moyenne de la population. Mm-hmm. Ça, c'est un phénomène un peu étonnant. Alors, bien sûr, on a tendance à se dire, oui, bon, on pense au rock...
Ouais, c'est ça, il y a de la drogue, de l'alcool, sexe, des abus en tout genre.
Voilà. La drogue, etc. La vie dissolue, etc. Mm. Est-ce que c'est vraiment le cas? Probablement, peut-être, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce phénomène, pour moi, illustre en fait ce qui se passe à l'intérieur d'une population humaine, non humaine d'ailleurs, d'animaux humains ou non humains, de variations dans ces traits d'histoire de vie entre les individus. Alors, qu'est-ce que c'est les traits d'histoire de vie? Les traits d'histoire de vie sont des traits qui ont des incidences démographiques. Donc, l'âge à la maturité sexuelle, donc l'âge à la première reproduction, la fécondité, la période de reproduction pour un individu, voire sa longévité, tous ces traits-là vont avoir des implications au niveau démographique pour la population. Ils sont très importants au niveau évolutif et au niveau écologique. Et on note, en fait, que... chez les humains comme chez les non-humains, animaux, on a une variation de ces traits d'histoire de vie. Certains, et notamment, il y a un axe de variation qui est très important, qui est associé à la lenteur ou la rapidité de cette histoire de vie. Certains individus optent pour une solution qui est « je me reproduis très vite et très intensément, je vis très intensément et je meurs très tôt ». Et d'autres vont plutôt retarder leur reproduction et l'étaler sur une période de vie beaucoup plus lente.
Ce sont deux extrêmes de l'évolution.
Voilà, deux extrêmes. Et on a toute une variation possible et imaginable dans les populations. Et la question, c'est de savoir, mais comment ça se maintient, ça? Pourquoi on n'a pas une solution optimale? Comment ça se fait? Les biologistes ont une explication qui est justement associée au fait que la reproduction coûte cher. Elle coûte énormément cher en termes d'énergie. Et toute cette énergie qui est investie dans la reproduction à un âge donné ne pourra pas être utilisée par l'individu, par exemple, pour maintenir des défenses immunitaires robustes, pour la réparation de tous ses organes, de ses cellules, etc. Et donc, il va payer un coût qui va augmenter ses risques de mortalité précoce. Donc, si on se reproduit dans des conditions naturelles, si vous voulez, lorsqu'on se reproduit, eh bien, on met à mal notre survie ultérieure.
Donc, il y a toujours un prix à payer, en fait. Et pour l'évolution... l'intérêt, c'est de se reproduire, de perpétuer la vie. Donc, finalement, vivre vite et se reproduire très tôt, ça va très bien.
C'est tout à fait une solution plausible et tout à fait favorable dans certaines conditions. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que au départ, c'est un compromis énergétique. Je me reproduis maintenant, donc je n'ai pas l'énergie à fournir. Je ne peux plus fournir l'énergie pour ma survie et la maintenance, le maintien de mon organisme. C'est un compromis énergétique, mais qui, avec l'évolution, s'est traduit en compromis génétique.
C'est inscrit dans les gènes.
Dans les gènes, d'une certaine manière. Alors, ce qu'on voit, c'est que certains individus portent des gènes qui ont des avantages en termes de caractéristiques précoces. Donc, des gènes qui vont favoriser des caractéristiques précoces qui améliorent l'aptitude darwinienne, mais qui vont se retrouver eux-mêmes impliqués plus tard dans la vie à avoir des effets néfastes sur d'autres caractéristiques de l'individu. Donc, lorsque l'individu vieillit, eh bien, ces gènes-là, qui étaient bénéfiques en bas âge, deviennent néfastes plus tard dans la vie. Alors ça, c'est intéressant. Par exemple, on a des gènes, on en connaît chez les humains de plus en plus, le gène BRCA, qui favorise une fécondité féminine élevée tôt dans la vie, est aussi un gène qui, plus tard, augmente les risques de cancer de l'ovaire et de cancer du sein. Et on connaît aussi des gènes maintenant qui sont impliqués dans le développement de la maladie d'Alzheimer, de Parkinson, Huntington, etc. Et j'en passe. Probablement des gènes qui ont des effets bénéfiques tôt dans la vie. Alors, la sélection naturelle, le problème, on pourrait se dire, mais je sais que Frédéric vous en a parlé il y a quelques mois.
Oui, Frédéric Thomas qui travaille sur le cancer et qui disait finalement, je résume un peu, mais disons, c'est pas du tout intéressant pour l'évolution qu'on vive très longtemps ou qu'on ait des organismes qui vivent très vieux. C'est beaucoup plus intéressant qu'on se reproduise vite, quitte à ce qu'on en meure.
Voilà, alors, dans certaines conditions. Puisque de toute façon, on doit mourir, ces gènes sont favorisés par la sélection naturelle tôt dans la vie, parce qu'ils vont améliorer l'aptitude darwinienne. Une fois que l'animal s'est reproduit, ou une fois que l'humain s'est reproduit, La sélection naturelle n'a plus aucun effet, elle ne peut plus faire grand-chose. Donc, elle permet justement le maintien de ces gènes, hein, qui ont ces actions combinées tôt dans la vie et tard dans la vie plus néfastes. Elle les maintient parce qu'ils ont cet intérêt, ce bénéfice tôt dans la vie. Et ce qui se produit, c'est qu'avec les transitions, la transition démographique que l'espèce humaine a connue depuis, disons, à peu près une centaine d'années dans nos sociétés industrialisées, on vit de plus en plus vieux et on voit apparaître maintenant, à des âges plus tardifs, les humains n'arrivaient jamais à ces âges-là, on voit apparaître justement cet aspect néfaste de ces gènes qui étaient bénéfiques tôt dans la vie.
Voilà une des raisons de l'épidémie de cancer, notamment.
Exactement, maladies cardiovasculaires et toutes ces maladies qui pourraient avoir une influence génétique. Donc on a cet aspect un peu, ce dilemme génétique, il est là profondément ancré dans nos vies. Et nos changements culturels ont permis en fait l'apparition de nouveaux dilemmes d'une certaine manière. C'est parce ça. Que ces gènes n'étaient pas exprimés auparavant, les individus mouraient avant de les exprimer.
Sacré dilemme tout de même. Alors de comprendre ça, de comprendre qu'au fond, dans la grille de lecture de l'évolution, il faut vraiment penser à ces dilemmes qui peuvent nous sembler illogiques, mais qui en fait ont une logique, hein, une logique darwinienne, une logique de l'évolution. De le savoir, de le comprendre, de l'étudier, de l'approcher, Denis Réal. Est-ce que ça change quelque chose dans votre perception à la fois de la vie et du vivant, mais aussi de la manière dont nous, les humains, nous comportons sur Terre, nos choix et autres?
Je dirais que ça, personnellement, ça me rassure. En tout cas, ça ne justifie rien. Rien en biologie ne doit justifier quoi que ce soit, aucune décision. Mais en tout cas, ça nous permet d'expliquer un peu nos vies sur Terre. Pourquoi on meurt? Pourquoi on vieillit? En fait, le vieillissement, la sénescence, c'est probablement associé en partie à ces dilemmes, justement à ces effets génétiques bénéfiques tôt dans la vie, plus néfastes dans la vie.
Il vaut mieux vieillir, tant pis. Enfin voilà, enfin,
on vieillit, on n'a pas le choix. Le vieillissement est un phénomène naturel et la mort est un phénomène naturel. Ouais, ouais. Et sans mort, il n'y aurait pas de vie parce qu'il n'y aurait aucun besoin de reproduction. Et s'il n'y avait pas eu de reproduction et de mort, il n'y aurait pas eu d'évolution. Donc on ne serait sûrement pas là autour du micro pour en discuter.
Donc alors, finalement, ça peut redonner un peu de, non pas des espoir, mais un peu haut les cœurs. Voilà, tout ça est absolument logique.
En tout cas, apprécier la vie telle qu'elle est, avec ses limitations, et puis se faire une raison de se dire, il y a quand même de très belles choses autour de nous, notamment la biodiversité, toute la diversité des formes de vie qu'on voit autour de nous, et peut-être d'en profiter tant qu'on est là, puisqu'on sait que de toute façon, on ne va pas rester très longtemps. Alors, malgré la misère individuelle, apprécions le miracle collectif qui est autour de nous, cette diversité fantastique.
Le miracle collectif, hein, c'est comme ça que vous achevez votre ouvrage. Vous allez bientôt rentrer au Québec, à Montréal, pour poursuivre vos recherches et vos enseignements. Vous allez retrouver vos petits écureuils ou sur quoi vous travaillez?
Je vais retrouver mes écureuils qui, probablement, cette année, devraient rentrer dans leur terrier très tôt cet été. Donc, on ne va pas les voir très longtemps.
Ils vont aller dans leur terrier et vous pourrez continuer à les étudier. Merci en tout cas, Denis Réal, d'avoir profité de votre passage à Paris pour venir dans notre studio. On vous laisse donc repartir à Montréal. On rappelle le titre de votre ouvrage, Le dilemme de la gazelle, aux éditions Humaine Science. Ouvrage passionnant dont nous avons, je vous le rappelle, chers amis auditrices et auditeurs, un exemplaire à vous offrir. Si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook, avis aux amateurs et aux amatrices et surtout faites les bons choix, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Merci Caroline.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre podcast disponible sur toutes les plateformes et sur l'application RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver lundi pour de nouvelles interrogations avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses, Caroline Achowski au micro pour vous servir. Merci de votre fidélité, de votre interactivité. Surtout, restez curieux. Gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. Et c'est bientôt l'heure de retrouver les informations sur RFI.